Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie ou émission où, comme à chaque semaine, on va parler de nouvelles techno. Donc ça va être ça aujourd'hui et on ouvre l'émission avec plusieurs en fait conversations assez intéressantes, mais entre autres on va parler de Pitchfork, le site musical qui est maintenant en fait, bon, pas disparu, mais disons qu'il y a eu des grosses coupures à ce niveau-là. Puis un article qui a été écrit sur, qu'est-ce que ça représente en termes de consommation de musique en ligne et qu'est-ce que ça veut dire aussi, entre autres, pour la critique générale en ligne de la musique. Donc, on va revenir là-dessus. C'est un sujet qui me tient à cœur personnellement parce que j'étais un fervent lecteur de Pitchfork et j'ai été touché et triste de voir que cette publication est maintenant beaucoup changé. Mais donc, ça va être ça au début d'émission. On va aussi parler encore une fois de l'intelligence artificielle, mais plus en détail sur un phénomène qui est en train de se passer sur Facebook. Et ça, c'est tiré justement d'un nouveau média que j'explore cette semaine, donc 404 Media. Je vous en ai parlé la semaine dernière quand je vous ai dit que j'essayais de chercher des sources de nouvelles alternatives pour parler de la techno. Donc, sortir des grands titres qui ont tendance un peu à recycler les mêmes nouvelles. Donc, j'ai essayé cette semaine. Et je vais pouvoir aussi en profiter pour faire un petit retour sur l'expérience d'utiliser ces sites alternatifs-là. Sinon, on va parler d'un cas qui est en train de se profiler aux États-Unis. Donc, Apple est sous la loupe du gouvernement américain. Et il y a même une poursuite qui aurait été intentée contre la compagnie pour pratiques non concurrentielles avec sa plateforme iOS. Ça fait des années que ça fait jaser. Vous avez peut-être remarquer que Epic, les créateurs du jeu Fortnite, mènent un combat acharné contre Apple. Et donc, c'est peut-être une nouvelle étape dans ce débat-là, mais on va parler de ça aussi. Puis finalement, pour souligner l'arrivée du printemps, on va parler un peu de pratiques et de ménage du printemps à faire d'un point de vue digital et pourquoi c'est important de le faire. Je sais que c'est pas nécessairement l'ambiance qui est au printemps en ce moment parce qu'il fait froid, mais c'est quand même des bonnes idées pour essayer de renouveler comment on utilise la technologie en ce moment. Donc voilà, et pour l'introduction, je voulais quand même prendre un peu de temps pour parler vous partager une anecdote et aussi vous amener à réfléchir à un phénomène auquel je n'avais pas vraiment pensé à discuter jusqu'à présent à l'émission. Et on va parler de Flipside sur Instagram. Donc récemment, j'ai reçu une invitation de quelqu'un que je suis à suivre, en fait, le profil Flipside. Donc j'ai été ajouté à un profil alternatif. Pour ceux qui ne le savent pas, Instagram a lancé une fonction un peu sans annonce, sans préavis, qui s'appelle Flipside. Donc, si vous ouvrez votre application Instagram régulière, vous allez voir dans le bas à droite une petite clé, un petit logo de clé, en fait. Et si vous cliquez dessus, vous allez tomber sur un profil alternatif. Et l'idée du Flipside, c'est d'ajouter des gens proches, des gens avec qui vous... ça serait d'avoir un profil avec beaucoup moins de personnes qui vous suivent. Et le but, c'est que vous pouvez poster des photos, des vidéos, du contenu beaucoup plus intime et aussi beaucoup moins travaillé. Donc, ça reprend définitivement ce qu'on connaissait avant sous le nom de Finstagram. Donc, le Finstagram, c'était une pratique qui était très populaire chez une tranche d'âge un petit peu plus jeune. Je me rappelle avoir déjà lu une nouvelle il y a quelques années de cela quand je cherchais des trucs pour l'émission, justement, qui disait « Si vous savez pas qu'est-ce qu'un Finstagram, vous êtes définitivement pas Gen Z » ou un truc du genre. Et c'était mon cas. Et j'ai découvert que, justement, c'était une pratique qui était assez courante chez les plus jeunes. C'est d'avoir un profil avec un nom... c'était pas identifiable et on pouvait poster un peu ce qu'on voulait. Les profils ont tendance à être privés dans ces cas-ci et on partageait du contenu qui était beaucoup moins travaillé. Parce qu'Instagram, vous le savez, c'est absolument du contenu très léché, c'est travaillé, il y a beaucoup de filtres, donc on projette une image un petit peu plus parfaite. Mais donc le concept de Finstagram, c'est ça. Et des années plus tard, on ne sait trop pourquoi, finalement, Instagram lance sa propre version qui est le Flipside. Donc, j'imagine que ça vient d'une certaine envie d'Instagram de supprimer les doublons en termes de profil. Parce qu'un truc que Meta et autres compagnies du genre détestent, c'est les profils vides ou les profils inutiles, donc les doublons, parce que ça leur permet pas de... ils ont besoin d'avoir un chiffre plus exact pour pouvoir tirer le plus de revenus publicitaires. Donc, des profils supplémentaires, des profils en double, ils n'aiment pas ça. Donc, je pense qu'ils essaient d'enrayer cette pratique-là en offrant la possibilité aux gens d'utiliser le Flipside à même leur profil. Donc, si vous tournez, c'est ça, si vous allez de ce côté-là de votre profil, vous pouvez vous créer un nom Et vous pouvez inviter des gens que vous avez déjà dans votre liste d'abonnements, mais vous pouvez les sélectionner au préalable. Et après ça, commencer à publier ce que vous voulez. C'est du contenu qui est privé. C'est pas accessible. Donc, il y a quelque chose de... C'est un petit peu plus de protection à ce niveau-là. Mais donc, on voit qu'il y a une... Je me demandais, en fait, si c'était répandu comme, comme utilisation. Je pense que, c'est, comme je vous disais cette semaine, c'est la première fois que je recevais une invitation sur un Flipside. Donc, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui utilisent la fonction. Mais je suis curieux à voir si ça va vraiment enrayer le... entre guillemets, problème sur Instagram des doubles profils ou du Finstagram, où si les gens préfèrent vraiment rester avec leurs deux profils séparés. Naturellement, le problème avec un flipside, c'est qu'une erreur peut être vite commise. Donc, des fois, on peut peut-être penser qu'on est du côté flipside et publier quelque chose sur son propre mur Instagram. Donc, je vois déjà les petites gaffes se profiler, mais bon. À suivre, mais j'ouvre la question. Donc, s'il y a des gens qui utilisent ça ou qui ont envie de me partager leur expérience avec le Flipside, vous pouvez toujours communiquer avec moi sur la page d'Avez-vous du Wi-Fi. Donc, voilà, c'était mon exploration de ça aujourd'hui qui découle de justement cette invitation que j'ai reçue cette semaine. Et on va commencer tout de suite en musique avec une chanson qui ne fait pas du tout avec la température d'aujourd'hui, soit So Hot You're Hurting My Feelings de Caroline Polachek. Et moi, je vous reviens pour la première partie de l'émission.
I'm
Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre les chansons des airs alimentaires de comment de bord, ça a été suivi de romantisme de élégie. Donc voilà, et pour la première partie de l'émission, je voulais vous parler de Pitchfork. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Pitchfork, c'est un média un média musical, de critique musicale, qui était assez populaire et qui était connu pour un système de notation assez strict et parfois très punitif. Donc, elle est de 0 à 10. Et il y avait tous les points possibles entre donc des albums qui avaient 7.2, d'autres 8.4. Après ça, vous aviez les 4.2. Ça, c'est souvent une note pour des albums qui étaient vraiment pas aimé de la rédaction. Donc, il y avait des petits 4.2 qui existaient ici et là. Il y a même eu des zéros qui ont été donnés. Mais donc, c'est une plateforme qui était connue depuis environ une vingtaine, voire une trentaine d'années. Et qui a récemment... Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a appris que la plateforme allait beaucoup diminuer. Donc, pour vous expliquer, la plateforme appartient maintenant à Condé Nast, qui possède Vogue, qui possède The New Yorker et autres médias du genre. Donc, on s'entend que c'est un gros réseau dans le monde de la publication américaine. Donc, Pitchfork était le volet musical de cet écosystème-là. Et considérant les performances récentes du site web, il a été décidé que Pitchfork allait devoir réduire ses effectifs. Donc, je pense que le 2/3 des employés qui sont partis, dont la rédactrice en chef qui a quitté en même temps. Et la publication est finalement tombée sous la direction de GQ, qui est le magazine masculin, je pense. Je ne sais pas exactement comment définir GQ. Mais donc, ça a créé une petite onde de choc dans l'univers de la critique musicale, parce que Pitchfork était quand même une ressource qui était aimée par plusieurs personnes. Il y a des gens qui, comme moi, appréciaient l'analyse en profondeur que le site pouvait offrir. Et ça a surpris en fait beaucoup de gens que ce soit la décision qui a été prise. Surtout aussi que Pitchfork, dans les dernières années, avait essayé de quand même changer son image, ou du moins faire un travail sur l'histoire du site, qui n'a pas toujours été glorieuse à certains moments. Ça a déjà été considéré comme étant un petit peu sexiste aussi, Pitchfork. Donc, il y avait tout un travail qui avait été fait à ce niveau-là. Donc, de retomber sur GQ, c'est un peu ironique, et beaucoup voient ça comme la fin d'une ère pour cette publication-là. Et même moi qui... je dois aller sur ce site-là depuis que j'ai à peu près 20 ans pour découvrir la nouvelle musique, essayer de voir un peu, rester à l'affût de ce qui se fait dans le monde musical. Même moi, depuis que la saison a été faite, j'ai pu remarquer une certaine différence dans ce qui est couvert. Il y a beaucoup moins d'artistes qui apparaissent, beaucoup plus des gros noms. Donc là, récemment, par exemple, il y avait une critique de Justin Timberlake. Et c'est pas que ces critiques-là n'existaient pas auparavant, mais c'était pas nécessairement les choses qu'on allait voir en premier. Et c'était pas le genre de... On ne lisait pas nécessairement ce magazine-là pour ce genre de critique-là. Donc, voilà. C'est un peu le contexte, en fait, qui a amené une autre publication, The Verge, à écrire sur l'histoire de Pitchfork. Et c'est ça que je trouvais intéressant. J'ai malheureusement pas le temps de faire toute la couverture de cet article-là parce que ça va quand même en profondeur vous fait vraiment suivre un peu la publication à certains moments clés. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est que Pitchfork est un média qui est apparu à un moment quand même assez intéressant dans le monde digital. C'est l'avènement de la musique digitale. Donc, tu sais, pensez au iPod qui sortait et la possibilité d'acheter de la musique en ligne, mais aussi la possibilité de télécharger de la musique illégalement en ligne, ce qui faisait que il y avait énormément de musique qui était produite et qui pouvait se retrouver dans les écouteurs de tout le monde, en fait, qui possédait la technologie pour en écouter. Et donc, c'était difficile pour les médias traditionnels de suivre la cadence avec tout ce qui sortait. Alors, Pitchfork s'est vraiment imposé comme étant une référence en matière de critique musicale parce que c'était une publication finalement digitale, complètement digitale, et qui publiait à chaque jour des critiques d'albums et donc qui pouvait se permettre à chaque jour de publier quelque chose de nouveau. Et il n'y avait pas de limite de... Il n'y avait pas de ligne vraiment éditoriale, donc tout le monde pouvait écrire autant qu'il voulait et prendre des tons assez différents. Donc, il y avait des reviews, je pense, à l'époque, qui étaient même aussi un peu des blagues. Donc, c'était quelque chose d'intéressant, mais on oublie aussi que ça a eu un impact assez important, mais c'est sur certains groupes. Donc, pensez à... Il y a des groupes comme The Broken Social Scene, The Nationals, il y a Arcade Fire même, qui ont eu des gros gains de popularité grâce à des publications digitales comme Pitchfork. Et donc, la question, en fait, que l'article fait ressortir, c'est qu'est-ce que ça veut dire que ce genre de publication-là, finalement, soit fermée aujourd'hui? Donc, aussi, qu'est-ce que ça veut dire sur l'écosystème musical actuel? Ou, donc, qu'est-ce que, ben, tu sais, ça va être quoi, en fait, qu'est-ce qui définit, c'est ça, cette nouvelle ère musicale? Puis, entre autres, on parle, justement, de notre rapport à la musique qui évolue. Donc, comment on aborde la musique un petit peu plus comme étant du contenu, comme du contenu de médias sociaux ou du bruit de fond pour du contenu de médias sociaux. Puis là, vous pouvez penser à TikTok. Donc, comment cet événement-là marque une nouvelle ère dans dans la musique, en fait, digitale. Et quelles sont les conséquences et les possibles futurs par rapport à tout ça. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis ça venait aussi me conforter sur le fait que, bon, cette source est disparue, mais je ne suis pas le seul qui a remarqué la chose. Donc, il y a eu quand même un petit nombre de choc avec ça. Et c'est bien triste tout ça, mais il y a quand même une conversation intéressante à avoir sur qu'est-ce qui s'en vient dans le monde de la musique en ligne et comment est-ce qu'on va en parler, justement. Donc voilà, c'était mon petit survol Pitchfork. Ça m'a permis un peu d'explorer le sujet et de vous partager ma peine face à la disparition de ce site. Ben, comme je vous dis, c'est pas disparu, mais c'est plus ce que c'était. Et là-dessus, on va aller justement en musique et on va aller écouter la chanson La Seconde de Beris. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission.
primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute Les Criques à Crinquer, les lundis 21h sur les ondes du CISM 89.3 FM.
Salut, c'est Vincent et Julien d'Double Date with Death. Vous écoutez CISM.
Le Refrain présente son premier événement, le Grand Éphémère. Du 22 au 24 mars 2024, on t'invite à venir festivaler comme jamais, en assistant à plus de 40 prestations artistiques issues de 17 disciplines. Tu pourras entre autres voir Ariane Moffat, Demain l'hiver, Notre grande nuit de la poésie, Canem, Alpha Rococo ou encore des performances d'art numérique. C'est 100% gratuit, mais tu dois réserver tes places sur lerefrain.com.
Le 8 avril, on pourra voir à Montréal l'événement astronomique du siècle. Une éclipse solaire totale qui plongera la ville dans une obscurité spectaculaire. Les membres de la communauté de l'Université de Montréal sont invités à prendre part à une grande célébration et à vivre ensemble ce phénomène rare et unique qu'il n'est possible d'observer généralement qu'une fois dans une vie. C'est donc un rendez-vous à ne pas manquer. Le 8 avril dès 13h30 au stade de football du CEPSUM, venez vivre avec nous l'éclipse solaire.
Hello, ici c'est Petit Béliveau, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radio campus de la planète Terre.
Vous écoutez CISM 89.3 FM.
Thank you.
Re-bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On venait d'entendre la chanson La Marche à suivre de Loïc April et ça a été suivi de Madonna de Virginie B qui est au palmarès franco à la 25e position. Donc avant la pause, je vous parlais de Pitchfork et de toute la saga autour de, pas la fermeture, mais bon, les coupures quand même assez importantes qui ont été faites dans... cette publication qui est née sur Internet et qui a joué un rôle quand même assez important dans la culture musicale en ligne. Et donc, il y avait, donc ça représente un certain changement dans la manière en fait qu'on interagit avec la musique. Et je vous disais justement que j'ai pas le temps d'aborder tous les éléments de l'article en profondeur parce que c'est excessivement long, mais je vous le conseille définitivement. Mais il y a des petits moments en fait qui m'ont quand même accroché, puis je voulais prendre le temps aussi d'en parler. Mais un changement aussi qui est noté par rapport à la culture musicale, c'est que tu sais, auparavant, quand on avait un artiste, bon, on va prendre l'exemple qui est utilisé dans l'article, on avait Taylor Swift qui décidait de publier un album de produire, faire un album, peu importe le terme, et qui le mettait en vente. Il n'y avait pas nécessairement un intermédiaire direct entre les fans et Taylor Swift. Donc, il y avait des entrevues qui pouvaient se faire, il y avait la diffusion sur les chaînes télévisées, sur les radios, peu importe. Après ça, il y avait les ventes. Vous pouvez imaginer comme il y avait des intermédiaires, en fait, entre les artistes et les fans de cet artiste-là. Dans l'ère des médias sociaux, ben en fait, il y a beaucoup de conversations qui peuvent avoir lieu instantanément et donc un contact direct avec les artistes à travers les plateformes comme Instagram et Facebook et autres, vous pouvez les nommer, TikTok aussi jusqu'à une certaine manière. Et donc, souvent, le rapport que les gens ont aussi avec la critique et les discussions, disons, on pourrait dire des discussions plus de fond sur la valeur, par exemple, d'une production musicale, ça peut créer des frustrations. C'est quand même intéressant, perturbant, ce rapport-là, finalement, à la critique musicale. L'exemple qui avait été donné, c'était une critique qui avait donné la note de 8 sur 10 pour un album de Taylor Swift. Je pense que c'était un des albums un peu... c'est Folklore. Donc voilà, un des albums un petit peu plus folk de Taylor Swift dans les récentes années, mais qui avait donné la note de 8 sur 10. 8 sur 10 pour une artiste comme Taylor Swift sur Pitchfork, d'ailleurs, c'était une très bonne note. Mais les fans n'étaient pas du tout d'accord avec la note. Les fans considéraient que c'était un album pratiquement parfait et donc ont quand même envoyé plusieurs menaces à la critique et ont créé un climat qui était finalement assez toxique. Donc, il y a quelque chose aussi qui... Il y avait un certain changement de rapport... par rapport à la critique musicale, dans le sens où si on ne répond pas à la demande des fans, si on n'est pas d'accord avec l'impression que les fans ont d'une œuvre, ça crée de la frustration et ça se retourne contre les artistes, ce qui est dommage parce que qu'est-ce qui est agréable aussi, c'est de, même si nous, on est complètement fans d'une œuvre, c'est d'avoir un regard plus critique qui nous permet de voir justement des défauts que nous, on n'aurait peut-être pas remarqués. Ça n'empêche pas que l'œuvre peut rester tout à fait agréable, mais ça nous fait penser, ça pousse la réflexion un petit peu plus loin. Et c'est comme si ça venait créer un clash avec la culture qui est, soit vous aimez quelque chose à 100% ou non, la culture un peu plus d'idolation, d'une certaine manière. Donc, il y a ça qui ressort de l'article, puis j'ai trouvé ça intéressant à lire comme perspective. Bref, je pense que c'est une excellente lecture à faire, donc ça permet vraiment de comprendre un peu le média. Même si vous n'êtes pas intéressé par la critique musicale en soi, je trouve que c'était quelque chose qui était intéressant et qui permet aussi d'aborder justement d'autres changements dans le milieu digital. Ça touche à beaucoup d'autres sujets qu'on aborde dans l'émission, entre autres le danger des pratiques d'agglomération, de concentration, de monopolisation. Donc, il y a quelque chose là aussi qui ressort. Donc, on en a parlé, mais Pitchfork appartenait maintenant à Condé Nast, qui possède The Vogue, The New Yorker et autres publications. C'est Anna Wintour elle-même qui aurait renvoyé les employés de Pitchfork. Donc, quelqu'un qui possède finalement un empire médiatique. Et dans le fond, la monopolisation, la centralisation qu'on voit dans le domaine digital, ça l'a... ça peut avoir des répercussions assez importantes parce qu'on sait que ces grandes compagnies-là vont surtout fonctionner. Leur intérêt premier, c'est les données de, bon, le trafic. Est-ce qu'il y a du revenu qui se fait, qui se génère? Est-ce que les profits continuent à augmenter? Si oui, tout va bien. Sinon, ben, on va commencer à couper. Donc, ça peut être assez rapide. Et on voit que, bon, quand une compagnie comme Condé Nast décide qu'ils veulent bouger ou restructurer certaines de leurs plateformes qu'ils possèdent, ben, ça peut avoir des répercussions assez larges. Ça peut détruire une publication entièrement comme Pitchfork. Mais il faut aussi penser à d'autres. Ça se passe aussi à d'autres niveaux. Pensez au domaine du jeu vidéo où, par exemple, toutes les annonces de coupures qui ont été faites chez PlayStation ont eu des répercussions dans beaucoup de studios qui étaient auparavant indépendants, mais qui ont finalement été rachetés par Sony. Donc, les pratiques de centralisation, ben, ça a aussi cet effet-là. Puis je trouve que, ben, aborder l'histoire de Pitchfork fait ressortir ça encore une fois. Donc, les pratiques, le danger des pratiques de monopolisation dans le monde de la techno. Et on voit ça à travers les différents types de divertissements qui sont disponibles, que ce soit la musique, les jeux vidéo, le streaming, et ainsi de suite. Donc, je trouvais que c'était quand même un sujet très pertinent pour l'émission aujourd'hui. Mais d'ailleurs, je vous rappelle que si vous cherchez quand même à diversifier vos sources musicales et en apprendre davantage, CISM reste là et est toujours présente pour aborder la musique émergente, vous faire sortir un peu de votre zone de confort dans ce que vous écoutez. Et donc, au moins, il y a des ressources qui existent encore à ce niveau-là. Il y a plein d'émissions aussi spécialisées musicalement à CISM à travers lesquelles vous pouvez explorer des nouveaux genres et essayer de découvrir de la nouvelle musique. Donc, tout n'est pas perdu. Il y a des sources et CISM en est une qui ont encore la musique à cœur. Donc voilà, et ça c'est aussi, me permet de faire une pub sans gêne, mais je vous rappelle que CISM en ce moment a une infolettre pour où vous pouvez vous abonner et vous allez avoir de l'information sur qu'est-ce qui sort du côté musique, qu'est-ce qui se passe à la station aussi, donc c'est toujours intéressant. Et ça, ça vous permet de contourner en ce moment le blocage qu'on a avec Meta. Donc voilà, ça vous intéresse, allez voir ça. Sinon aussi, entre parenthèses, ISM vient de lancer son TikTok, donc si vous voulez aller voir la plateforme, la page de la radio, eh bien, c'est disponible sur ce média qui n'a pas encore coupé les nouvelles, les sites ou les plateformes de nouvelles canadiennes. Donc voilà, c'était mon petit survol là-dessus. J'ai dit petit, mais c'était quand même assez en profondeur. Et on va aller écouter la chanson « À la rencontre de Barbara » de Le Couleur. Et moi, je vous reviens pour la suite de l'émission. Re-bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi. Vous venez d'entendre la chanson Lilo Bleuet de BB Club qui est à la position numéro 24 dans le palmarès franco. Donc, on continue dans notre conversation de phénomène digital. Donc, on va changer de sujet. On va pas reparler de Pitchfork. Je vous avais dit que j'allais essayer de diversifier mes sources dans les dernières semaines pour découvrir un autre type de nouvelles dans le monde de la techno. Et donc, cette semaine, je me suis penché du côté de 404 Media. Et il y a un article qui m'intéresse qui s'appelle « Facebook's algorithm is boosting AI spam ». Donc, c'est un article qui a été écrit par Jason Kubler et ça parle en fait de l'intelligence artificielle qui est utilisée, la génération d'images sur Facebook. Et donc, d'un phénomène qui est en train de se développer en ce moment. Et on fait surtout référence à des pages un peu aléatoires comme Love, God, and blablabla, ou Beautiful Military, c'est des noms de pages assez bizarres, mais qui ont tendance à publier du contenu ou des images qui sont créées à partir de l'IA. C'est apparemment des pages qui sont surtout, qui proviennent surtout de certains pays comme l'Arménie, la Turquie, le Vietnam, le Pakistan, donc d'autres pays qui sont nommés, mais c'est des pages qui sont apparues dans des pays autres, et donc pas aux États-Unis, mais qui proposent du contenu qui est censé, je pense, attirer cette population-là. Donc, dans le fond, ce que l'article explore, c'est que les images de synthèse ou les images générées par l'intelligence artificielle deviennent un nouveau piège à travers lequel les personnes, en fait, qui roulent ces pages-là arrivent à vous amener sur des sites tiers où il va y avoir beaucoup de publicité, où on va essayer de vous vendre des produits de mauvaise qualité, mais donc ça génère quand même la vente. Et apparemment que ces pages-là génèrent des millions d'interactions maintenant, donc les gens se laissent souvent prendre se laissent souvent prendre par ce genre d'image-là, et ça utilise beaucoup la technique du l'effet de surprise, un peu un effet de choc. Donc un des exemples en ce moment qui roule beaucoup, c'est le Jésus à crevettes, et donc c'est plein d'œuvres. Ça arrive. En fait, il y a vraiment beaucoup d'exemples, mais c'est des œuvres d'art qui montrent Jésus construit complètement à partir de crevettes. Donc, c'est vraiment ça. Et ça vient généralement avec des commentaires du genre « Personne aime mon art ». C'est comme ça se veut un peu être comme une blague, comme un mime d'une certaine manière, et ça fait beaucoup réagir. Donc, les gens vont cliquer sur la photo et commenter. Donc, un des exemples qui est mis dans la page, c'est justement, bon, un Jésus crevette, et il y a 616 000 interactions, donc j'aime ou cœur sur la publication sur Facebook. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se produit à ce niveau-là. Donc, il y a un phénomène qui existe. Et il y a aussi un autre enjeu, c'est que l'algorithme de Facebook semble récompenser ce genre de contenu-là. Donc, je sais pas comment on peut traduire du contenu clickbait en français. J'ai pas fait mon tour sur l'Office national de la langue française, donc il va falloir que j'aille vérifier ça. Mais donc, l'algo récompense ce genre de contenu-là. Donc, ça va vous être suggéré par la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous interagissez avec une page qui utilise ce genre de technique-là, on va commencer à vous présenter d'autres pages qui utilisent le même stratagème, et ce, même si le thème est complètement différent. Donc, un des exemples qui était donné dans l'article, c'est que vous pourriez mettre une page qui est dédiée aux chiens, mais par la suite, vous allez vous faire recommander une autre page qui n'a aucun rapport avec ça, mais qui a la même technique que d'utiliser des images générées par l'intelligence artificielle. Donc, quelque chose qui est weird à ce niveau-là. Et aussi, il n'y a pas vraiment encore de protection disponible ou de choses qui ont été mises en place par Meta pour s'assurer que ce contenu-là est clairement identifié. Meta avait proposé de devoir obliger certaines pages à inscrire ou à fournir en fait une indication qui exprime que l'image a été créée à partir de l'intelligence artificielle, mais apparemment que dans la petite recherche qui a été faite dans le cadre de l'article, je pense que il y a juste une fois que du contenu a été probablement que le contenu a été proprement en fait identifié. Donc il n'y a pas toujours c'est pas des mesures qui sont facilement mises en place, et ça ne veut pas nécessairement dire que ça va en fait, il n'y a pas vraiment de recours, donc pour l'instant, pour pouvoir identifier tout ça et ou encore le signaler. Ce qui est fascinant aussi, c'est que On voit à quel point l'utilisation de l'IA générative à ce niveau-là se fait excessivement rapidement et la culture n'est peut-être pas encore à niveau. Et là, je parle aussi de notre rapport à ces images-là. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas la question à savoir si l'image est générée à partir d'une intelligence artificielle ou non. Donc, on n'est pas encore très apte à reconnaître ça. Je pense que ça prend une certaine pratique. Du moment qu'on commence à voir c'est quoi les traits clés d'une image créée par l'IA, c'est plus facile à reconnaître des trucs qui ressortent assez facilement, mais souvent quand on est en train de justement défiler sur notre téléphone, on ne portera pas attention à ces détails-là. Et donc, il y a comme un petit changement de culture qui doit s'opérer, une conscientisation sur les images d'intelligence artificielle qui doit se faire en ligne, mais pour l'instant, c'est pas nécessairement possible de le faire. Mais donc, je trouvais ça intéressant parce que je l'ai vu passer moi aussi sur Facebook, le truc de Jésus, le truc de Jésus à crevettes. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de variations sur le thème de Jésus, donc dans les images de synthèse, c'est fascinant, mais bon, un peu étrange aussi, donc déconcertant, on pourrait dire. Mais c'est un des exemples qui se retrouve facilement. Et d'ailleurs, je me demande si d'avoir fait cette recherche aujourd'hui va faire en sorte qu'on va me suggérer encore plus de contenu. Mais je pense que l'article en soi, ce que ça critique, c'est pas nécessairement le fait que ces images-là existent. Ça, on savait que ça allait arriver. Donc, c'est pas une surprise que des sites qui cherchent à générer du contenu ou à générer du trafic utilisent ces stratagèmes-là. C'est plus le fait que Facebook recommande aussi ces pages-là et vont les mettre de l'avant, donc facilite le stratagème finalement. Donc, ça joue dans le jeu même de ces pages-là qui cherchent à se faire le plus de profit. Et voilà. Et ça montre aussi qu'il faut faire attention à pas toujours agir de manière impulsive sur les médias sociaux. Donc, surtout quand le stratagème, c'est de créer des images qui choquent un peu en nous faisant dire, voyons donc que c'est ça. Et là, on va cliquer dessus. C'est là que ça va. C'est là que ça marche, en fait, c'est ce genre de page-là. Et donc, c'est peut-être une pratique à essayer d'adopter. Mais je pense que ça fait aussi peur pour l'utilisation de Facebook. Je ne sais pas qui utilise encore Facebook, d'ailleurs, de manière régulière, mais on dirait que plus on y va, plus ça commence à être du contenu assez impertinent ou qui n'a aucun lien, en fait, avec le monde qu'on suit réellement. Donc, je ne sais pas trop ce que ça signifie pour les développements de la plateforme, mais disons que ça ne me motive pas à y passer plus de temps. Mais donc, voilà, c'est l'article. Puis je l'ai trouvé intéressant. Puis je voulais justement voir ça allait quoi d'utiliser cette source-là, donc Fourfour Media, pour explorer un autre sujet. Puis j'ai trouvé que c'était quand même rafraîchissant comme approche. Je pense qu'il y a une certaine liberté dans la manière que c'est fait. Donc, on a un ton journalistique qui est présent, certes, mais c'est des expérimentations qui sont faites par les auteurs même. On a une voix aussi éditoriale peut-être un petit peu plus forte. Donc, on n'est pas quelque chose qui est très neutre. T'sais, des fois, on va avoir des articles qui vont être publiés. Si, je pense, disons, à The Verge, des fois, le ton va être très The Verge. C'est difficile à faire la différence entre différents journalistes sur la plateforme. Tandis que ce média-là, je trouvais qu'on avait un petit peu plus cette approche-là individuelle qui est intéressante. Donc, définitivement, si ça vous vous intéressez à ces questions-là, je pense que ça a quelque chose de le fun, justement, comme approche. Ou en tout cas, c'est un petit vent de fraîcheur, je dirais. Et donc, c'est pas sans rappeler des médias comme Pivot au Québec où il y a peut-être moins de nouvelles, il y a peut-être pas autant de roulement que sur des sites de nouvelles comme Radio-Canada, mais il y a des fois des articles un petit peu plus longs, plus en profondeur sur certains sujets. Donc, ça permet d'explorer le tout plus en détail et ça, ça fait du bien. Donc, voilà, c'était la nouvelle sur les Jésus à crevettes dans le monde de Facebook. Et là-dessus, on va l'écouter la chanson « Letting Go » de Homeshake, qui est tirée de l'album CD Wallet, qui est au palmarès album à la 14e position. Thank you. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM. On vient d'entendre la chanson « L'explosion » de Lisandre. Et là, on va passer à une conversation Apple qui est dans l'eau chaude parce que les États-Unis, même le gouvernement américain, ont décidé de poursuivre la compagnie. Donc, c'est le département de la justice qui décide de poursuivre Apple pour des pratiques anticompétitives à travers son application, à travers son iOS Store. Donc, l'idée, c'est que Apple exerce un monopole et essaie de finalement prendre plus d'argent de la part des consommateurs, des développeurs, des créateurs de contenu, des artistes, des publications, et ainsi de suite. Donc, l'idée qui est défendue, c'est que Apple essaie de finalement emprisonner ses utilisateurs et utilisatrices à travers l'écosystème de iOS, et ça crée des climats anticompétitifs pour les utilisateurs des iPhones. Donc, il y a ça qui se passe en ce moment. Il y a plusieurs États, en fait, qui ont décidé de se joindre dans cette campagne-là. Donc, c'est l'État du New Jersey, par exemple, l'Arizona, la Californie, Connecticut, le Maine, le Michigan, Minnesota, New Hampshire, New York. Donc, il y en a plusieurs. Il y a le Vermont aussi. Au départ, je me demandais si ça allait être les États plus républicains qui allait en fait mener cette démarche-là. Finalement, ça a l'air d'être assez mixte. Donc, on essaie en fait de mettre en place des balises un petit peu plus strictes autour des compagnies technologiques. Je pense que ça se veut être une forme de réglementation qui s'apparente à ce que l'Europe fait. Donc, l'Europe qui met beaucoup de pression sur les compagnies technologiques pour celles-ci changent leur comportement et aient des pratiques plus qui sont plus en ligne avec les politiques des pays représentés dans ce cas-ci par l'Union européenne. Mais là, on le voit aussi aux États-Unis où il y a beaucoup de conversations autour de la législation des applications. On a parlé la semaine dernière même aussi de le potentiel expulsion de TikTok du marché américain. Ça, c'est un autre problème. Il y a beaucoup de gens qui décrivent une forme d'hypocrisie dans cette réglementation-là. Mais celle sur le iOS, ça va être assez intéressant à suivre. Ça fait des années qu'il y a des compagnies tierces qui se plaignent du monopole qu'exerce Apple. Je pense qu'Apple peut aller chercher 30% des revenus qui sont générés à partir de son application. Et pour accéder aux usagers et usagères qui possèdent un iPhone, il faut passer par iOS. C'est pratiquement impossible autrement. Donc, naturellement, Apple peut bien fixer les prix qu'ils veulent sur les ventes et sur combien ils décident de retirer par la suite. Donc, naturellement, c'est sûr que s'il y a un profit qui est... on prend 30% des profits qui sont faits par les compagnies, celles-ci vont offrir des produits beaucoup plus chers. Donc, il y a quelque chose qui est... j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme procédure. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la réponse d'Apple qui dit que finalement, ce qu'ils font, c'est que la poursuite risque de menacer les produits offerts par Apple, qu'on attend une certaine excellence, une intégration très fluide entre les différents appareils qui sont produits par Apple, donc iPad, Mac, téléphone, et ainsi de suite. Et donc, ce que ça va faire, cette poursuite-là, c'est que ça va rendre la chose beaucoup plus difficile et laborieuse. Donc, Apple dit qu'elle va se défendre contre ces allégations, mais ça a l'air... C'est une réponse, en fait, à laquelle on aurait pu s'attendre. Naturellement, Apple dit faire ça pour le bien de ses utilisateurs et utilisatrices, mais on s'entend que ça m'étonnerait que ce soit si altruiste que ça, leur désir de garder en place iOS. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on en parle... c'est un phénomène qu'on connaît depuis longtemps, qu'on essaie de... qui est beaucoup documenté, là, comment on est en fait enfermé dans des écosystèmes il y a très peu d'opérabilité entre les écosystèmes. Donc, si vous êtes pris dans iOS, vous pouvez pas vraiment aller dans d'autres écosystèmes ou communiquer de manière aussi claire avec d'autres plateformes. Donc, vous devez vous plier finalement aux règles qui sont mises en place par Apple, mais ça va être la même chose si vous êtes... il y a plusieurs, en fait, écosystèmes technologiques qui existent, là. Donc, c'est problématique. Et là, on essaie de... Je me demande si ça va vraiment nous... Cette poursuite-là va vraiment nous amener vers quelque chose qui est peut-être plus décentralisée ou du moins restreindre les pouvoirs que les compagnies possèdent sur la réglementation de ces écosystèmes-là. Au moins, ça nous permet de peut-être déverrouiller tout ça et de faire en sorte qu'on soit un petit peu plus ouvert. Donc, je ne sais pas si c'est pour ça. Là, je ne sais pas vraiment ce que ça va donner. On ne sait même pas non plus avec quoi le résultat. Est-ce que la compagnie va être vraiment tenue responsable et va être reconnue coupable? C'est à suivre. Et est-ce que ça va mener à des meilleures pratiques par la suite? Ce n'est pas toujours clair, mais la conversation est intéressante. Donc, à voir ce que ça va donner, mais il faut aller lire davantage là-dessus. Donc, c'est le gouvernement américain qui décide de poursuivre Apple pour pratiques non compétitives. Donc, voilà. Là-dessus, on va aller écouter la chanson « Mais d'égal » de l'Impératrice. Et moi, je vous reviens pour la conclusion de l'émission.
Thank you.
bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous du Wi-Fi sur les ondes CISM. Vous venez d'entendre la chanson La montagne de la Danuba. Et donc, c'est pas mal là-dessus qu'une mission va se conclure aujourd'hui. Je vous avais dit que j'allais vous parler de ménage de printemps, mais finalement, j'ai peut-être trop parlé des autres sujets à l'émission aujourd'hui. Mais en fait, je vais juste vous glisser un mot brièvement que je suis tombé sur un article qui disait que il y avait une journée officielle maintenant, le 16 mars, où c'est la journée mondiale du nettoyage numérique, le Digital Cleanup Day, donc une initiative qui vise à sensibiliser la population à la pollution du web. Donc, il y avait quelque chose qui se passait la semaine dernière, je ne savais pas. On va le savoir pour l'année prochaine. Mais comme bon, le printemps est enfin commencé, malgré les températures qui nous disent le contraire, ça m'a rappelé toute la conversation que j'avais eue sur les pratiques ou en tout cas des techniques pour essayer de réduire ou de faire du ménage dans l'écosystème numérique. Et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne occasion pour essayer de ramener ça dans les prochaines semaines. Donc, je vais revenir là-dessus en fait la semaine prochaine et essayer de vous parler de nouvelles techniques pour faire du ménage dans votre vie digitale. Il y a des trucs qui sont donnés, entre autres, dans la couverture qui avait été faite par Radio-Canada, mais c'est des trucs assez simples et qui vont de soi, donc des bonnes pratiques à adopter. Mais j'aimerais quand même ça pousser un petit peu la réflexion plus loin. Mais un truc qui je trouvais pertinent à mentionner avant de conclure, c'est il y a quand même toute une conversation sur l'impact que peut avoir notre usage, par exemple, de l'intelligence artificielle, donc des ChatGPT et des modèles langagiers. C'est des applications qui demandent énormément de ressources. Donc, de prendre conscience que ça a quand même un coût énergétique d'utiliser ces applications-là. Donc, il y a un appel à les utiliser de manière judicieuse. Donc, je pense que l'aspect de conscientisation est important dans cette conversation sur le ménage numérique. Mais ça sera une conversation pour le début de l'émission de la semaine prochaine parce qu'on va se quitter là-dessus. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme d'habitude, je vous invite à réécouter les émissions sur le site web de CISM. Tout est disponible. Et sinon, si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est sur ma page Facebook ou encore ma page Instagram. Aujourd'hui, on va se quitter sur la chanson 1, 2, 3 de Mounia. Et moi, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres conversations techno.
ici Laurence Anne, vous êtes sur les ondes du séisme CISM 89.3. Je sais où je vais.
L'appel de projet pour la saison d'été de CISM, c'est en ce moment. Alors oui, j'aurais pu vous rappeler que CISM, c'est la plus importante radio étudiante francophone en Amérique du Nord. Que CISM, c'est le meilleur de la création musicale et culturelle de la relève. Que CISM, c'est des émissions engagées, pointues et passionnées, animées par plus de 100 bénévoles. Mais si vous m'écoutez, vous savez déjà tout ça. Alors si toi aussi tu as des choses à dire, des idées à défendre, des passions à partager, envoie-nous ton démo et ton projet d'émission. Pas besoin d'être aux études, pas d'expérience requise. Visite le CISM893.ca à la section implication. Tu as jusqu'au dimanche 24 mars.
Tous les mardis, dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
Indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3.
Allô, on est le groupe de musique normale Crab. Et vous écoutez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 FM CISM, 110% la marge.
Écoutez Voix Tropicale, tous les samedis de 10h à 13h. 3 heures de musique et d'information sur les ondes de CISM 89.3 FM. CISM, la radio universitaire francophone la plus importante au monde, avec ses 10 000 watts de puissance, d'amour et de plaisir. CISM 89.3 FM, Montréal.
Aux premières loges de la découverte musicale dans toute sa diversité, c'est au Francouverte que ça se passe. Du 11 mars au 13 mai, en salle ou sur le web, le concours Vitrine vous présente 11 soirées, 21 artistes de la scène émergente, ainsi que de nombreux invités. Rendez-vous à francouverte.com pour connaître toute la programmation, choisir vos spectacles et visionner une foule de vidéos. Les Francouvertes n'ont plus de frontières. Tentez l'expérience. Une présentation de SiriusXM.
Ne manquez pas Les Pénibles, chaque mardi, 21h30, live, CISM 89.3 FM.
Bon, vous l'avez sûrement remarqué, mais nos réseaux sociaux sont toujours bloqués. Alors on a décidé de revenir à la bonne vieille méthode de l'infolettre. Chaque semaine, on t'envoie un petit résumé de tout ce qui s'est passé entre nos murs. Sessions live, culture, société, événements, concours, bref, on te résume tout ça en un seul courriel super rapide à lire. Abonne-toi à l'info.